beaucoup de monde pour écouter le professeur Xavier Le Pichon évoquer les séismes vendredi dernier à Sisteron.
Cette conférence s'inscrit dans le cadre de la fête de la science et de l'énergie initiée par le service culture de la ville de Sisteron. Éminent professeur honoraire au Collège de France, membre de l'Académie des sciences et géodynamicien réputé, Xavier Le Pichon a évoqué la tectonique des plaques dont il est le pionnier, ainsi que les risques sismiques du Japon à la Provence. Le grand auditorium Louis-Julien de Sisteron était presque trop petit pour accueillir les nombreuses personnes venues en savoir davantage sur les phénomènes qui se passent sous nos pieds. Le séisme de l'année dernière au Japon et le tsunami qu'il a créé a conduit les chercheurs à réévaluer la possibilité de très grandes catastrophes sismiques. Selon le professeur, et surtout d'après les études qui ont été menées après le bouleversement, la tragédie nippone aurait dû être évitée. Dans notre région, les paysages changent et les montagnes se façonnent. Avant d'être destructeurs, les séismes sont avant tout constructeurs. Ce sont eux qui créent les reliefs qui nous entourent et les derniers tremblements ressentis à Manosque, Barcelonnette et Villeneuve sont les conséquences d'un écroulement des Alpes sur la Provence. Mais qu'on se rassure, même s'il est difficile de savoir quand la Terre va se mettre à trembler, selon le professeur, nous ne revivrons pas un séisme de magnitude 6 comme ce fut le cas à Lambesque le 11 juin 1909. C'est ce qu'il explique au micro de Patrice Vernet. Mais avant de l'entendre, je vous signale que le professeur Xavier Le Pichon est sur vos petits écrans ce mardi 16 octobre. Il évoquera sur la chaîne KTO à 20h40 la fragilité de la Terre et la fragilité de l'homme.
J'étais passionné par la mer. Je suis né au Vietnam et puis depuis que j'étais tout petit, je regardais le Pacifique, je me disais qu'est-ce qu'il y a là-dessous. Et cette question-là ne m'a jamais quitté. Donc quand j'ai fini mes études en France, j'ai été aux États-Unis et j'ai commencé à travailler tout autour de la Terre, sur les bateaux, pour explorer l'océan qui à l'époque était très mal connu. Et très vite, on s'est rendu compte que le fond des océans était complètement différent des continents. On pensait que les continents envoyaient tous leurs débris dans la mer et qu'on allait trouver pour 3 milliards d'années de restes. On faisait des fonds des océans un cimetière, en quelque sorte. On s'est aperçu que c'était quelque chose de très jeune, très dynamique. Et tout de suite, il a fallu penser à un nouveau système. Donc, on est arrivé à proposer un système, et j'ai eu la chance de participer à ça, qui était un système dans lequel c'est le fond des océans qui sont à la base de la dynamique de la Terre, qui renouvelle continuellement les reliefs de la Terre. C'est ce qu'on a appelé la tectonique des plaques, avec des grands radeaux qui bougent les uns par rapport aux autres et qui comprennent les continents, et qui bougent jusqu'à 10 cm par an, ce qui fait que ça fait des milliers, des dizaines de milliers de kilomètres quand on accumule au cours des âges géologiques.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Terre telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle n'a pas toujours été comme ça. C'était un ensemble.
Non, la Terre, si on l'avait vue de l'espace il y a 200 millions d'années, on aurait eu un choc. Hein. C'est rien à voir, il y avait un seul continent au lieu des continents actuels. Et ça s'est produit à beaucoup de reprises parce que la Terre est un milieu vivant qui se régénère sans cesse. Donc elle change sa configuration à surface. Et l'élément de base pour le changement, c'est le tremblement de terre. Voyez, contrairement à ce qu'on croit, le tremblement de terre n'est pas d'abord destructeur, il est d'abord constructeur. C'est l'accumulation des mouvements des tremblements de terre qui crée les montagnes, qui crée les reliefs, et qui, en fin de compte, nous permet d'être au-dessus de l'eau. S'il n'y avait pas de tectonique des plaques et qu'il n'y avait pas de tremblement de terre, eh bien, tous les continents seraient progressivement érodés et on deviendrait pire que le Bangladesh, vous voyez, sous l'eau partout.
Au plus les montagnes sont grandes, au plus il y a eu de tremblements de terre.
Oui, absolument. Un tremblement de terre va vous faire un déplacement typiquement pour les gros tremblements de terre de quelques mètres, vous voyez. Et il faut accumuler ça des milliers de fois pour faire des très grandes chaînes de montagnes.
Vous êtes venu ce soir parler devant beaucoup de monde, du Japon, de la Provence. Fukushima, on aurait pu l'éviter, c'est ça qui est troublant.
Oui, tout à fait. Je crois que c'est très important à bien comprendre. Hein. C'est que il y a eu des erreurs humaines. Il aurait été tout à fait possible d'avoir ce tremblement de terre sans qu'une seule centrale nucléaire soit affectée. Ce sont des erreurs humaines graves dues au fait que les compagnies qui possédaient ces centrales ont voulu faire le maximum d'économies et refuser de faire des changements qui leur avaient été demandés et qui n'étaient pas très coûteux. Ça, c'est dramatique et très grave sur le plan humain. Et ça montre une erreur de jugement et des politiques et des techniciens et des scientifiques. Ça, c'est très grave.
vous-même avez entre guillemets, prédit que ça allait arriver ?
Prédit, non, mais j'avais dit que le raisonnement qu'il faisait, puisque je travaillais à l'époque au Japon, j'ai été professeur à l'université de Tokyo, j'avais dit que ce raisonnement-là était faux. Voilà. Et qu'on pouvait attendre un grand tremblement de terre. J'ai pas du tout dit qu'il y en aurait un, j'ai dit qu'on pouvait en attendre un. Et ne serait-ce que ça, ils auraient dû faire beaucoup plus attention. Et il y a eu d'autres gens qui sont intervenus, des géologues, etc. Mais ils n'ont pas été écoutés.
Il n'empêche que ce tremblement de terre aura au moins permis de faire avancer les choses. Ils changent leur point de vue.
Il a radicalement changé les choses. Au Japon, c'est clair, il y a un avant et un après tremblement de terre de Tohoku. Désormais, il y aura une surveillance très étroite, mais on n'empêchera pas qu'il y aura d'autres très grands tremblements de terre avec des tsunamis. On en attend un au sud. Il faut savoir vivre avec ça, donc se préparer, pas mettre les maisons systématiquement au bord de la mer, apprendre à avoir l'alerte suffisante pour pouvoir se réfugier, etc., etc.
Pour la Provence, alors ?
On change complètement d'ordre de grandeur. Mais ce que j'essaye de dire, moi, pour la Provence, c'est de faire comprendre qu'on est dans un paysage qui se fabrique à l'heure actuelle. On n'est pas dans un paysage qui est uniquement l'érosion et puis des reliefs qu'on a hérités de la phase alpine ou je ne sais pas quoi. Non, pas du tout. Ça se fabrique en ce moment. Assisteront tous ces reliefs, ils continuent à grandir. Ça bouge. D'ailleurs, ça fait des petits tremblements de terre. Tremblements de terre qui peuvent avoir peut-être une magnitude jusqu'à 5. Voilà. Ceci se fait parce que, contrairement à ce qu'on dit aussi, on dit que c'est parce que les Alpes sont poussées par l'Afrique. Non, c'est fini ça. L'Afrique ne pousse plus sur les Alpes. C'est très bien montré par les mesures. Et ce qu'on a à la place, c'est les Alpes qui s'écroulent. C'est-à-dire que quand vous avez trop comprimé quelque chose, vous avez pris un bulldozer, vous avez fait un énorme tas de sable, et puis vous retirez le bulldozer, et bien il va se réajuster en s'écroulant. Et bien pour les Alpes, c'est ça. Vous avez un système, les Alpes s'écroulent. En s'écroulant, elles poussent latéralement sur les roches tout autour, et en particulier sur les roches du ce qu'on appelle les bassins de l'Est, la Provence, qui sont des roches calcaires, marneuses, qui reposent sur une grosse couche de sel, du sel qui a été déposé il y a 200 millions d'années. Et ce sel, ça fait comme une couche d'huile, si vous voulez. Donc, ça glisse dessus et ça glisse vers le sud. C'est ça la raison de ces tremblements de terre qui sont dans les sédiments. Par exemple, les tremblements de terre récents de Villeneuve, la profondeur, c'est seulement 2,5 km, vous voyez, pour ceux qui ont été bien précisément mesurés. Donc, 2,5 km, ça veut dire que c'est tout, tout près de la surface. Alors, naturellement, les gens, quand ils sont juste au-dessus, ça secoue beaucoup parce que c'est tout proche. Mais par contre, ce n'est pas ressenti sur une grande surface.
Que doit-on attendre dans les prochains mois, prochaines années ?
Ça, je ne peux pas vous dire. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'heure actuelle, la faille de Manos, qui est juste à côté, là, elle travaille, elle bouge, elle se réajuste. Alors jusqu'où ça ira, on ne sait pas, on ne peut pas dire. Mais il est très peu probable que dans une région comme ça, ça dépasse une magnitude de l'ordre de 4,5 à 5, ce qui est déjà très important. Hein. Ça peut faire des dégâts, mais ça ne sera jamais le 6 de Lambesc ou des choses comme ça. Et d'autre part, on peut avoir des séismes sur la limite des nappes qui viennent des montagnes, ce qu'on appelle la nappe de Digne. Donc toute la région qui va de Digne en montant vers le nord jusqu'à Saint-Genier, la Motte du Caire, toute cette région-là, c'est un endroit où on peut aussi avoir un autre type de tremblement de terre qui sont les nappes de roches qui viennent des Alpes qui s'écroulent aussi, qui s'écoulent plutôt, elles aussi.
Merci.